Adrien Delgrange pour l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Thomas Giraudeau, bonjour à tous. De Los Angeles à Port-au-Prince, de Paris à Bogota, ravi de vous retrouver.
RFI.
15 septembre, sommaire de ce journal des Amériques. Les incendies aux États-Unis pendant que la côte ouest est dévorée par les flammes. En visite hier en Californie, Donald Trump minimise les conséquences du changement climatique. Ça finira bien par se refroidir, lance le président. Le candidat Joe Biden en a profité pour fustiger son adversaire politique. À suivre également dans le journal, la revue de presse des Amériques présentée par Christophe Paget. Christophe, il sera entre autres question de la Colombie.
Oui, la presse du pays a enquêté sur les violences de la semaine dernière à Bogota qui ont fait 13 morts et plusieurs centaines de blessés et sur l'incident qui les a provoqués, l'arrestation très violente d'un homme par la police, Javier Ordenes, un homme qui est mort un peu plus tard dans la nuit.
Au sommaire également, Haïti, Godson Pierre, le rédacteur en chef d'Alter Press, nous attend à Port-au-Prince. Godson, vous reviendrez notamment sur cette journée de violentes protestations hier dans la capitale.
Ah oui, plusieurs véhicules de l'État incendiés et des bureaux publics attaqués. Les activités étaient paralysées à Port-au-Prince.
Explication à suivre. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus.
Radio France Internationale. Las voces del mundo.
Les dizaines de brasiers qui dévastent la côte ouest des États-Unis ont déjà fait au moins 35 morts depuis le début de l'été. Donald Trump est venu hier sur les lieux du sinistre en Californie. Le président américain était sur place pour faire un point sur les opérations de lutte contre ces incendies. Donald Trump a encore une fois nié le rôle du changement climatique dans ces incendies. Climato-sceptique assumé, le président américain n'a pas manqué de mettre en doute tout lien avec ces incendies. C'est une correspondance signée Lubna Anaki.
Alors que le gouverneur de Californie venait tout juste de lui demander de respecter les différentes opinions sur le changement climatique et surtout de respecter le fait que la Californie croit en la science, Donald Trump n'a pas pu s'empêcher de montrer son scepticisme lorsque le responsable des ressources naturelles de l'État l'interpelle sur la question.
Ça va se refroidir.
Si seulement la science vous donnait raison.
Je ne crois pas que la science sache réellement.
Ce n'est pas la première fois que le président américain nie l'existence du changement climatique. Mais certains responsables espéraient que face aux violents incendies qui ravagent en ce moment la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, Donald Trump éviterait ce genre de déclaration, d'autant plus qu'il était sur place pour apporter son soutien aux autorités locales dans leur lutte contre les feux. Au même moment, Joe Biden faisait un discours justement sur ces incendies et le climat. Il a accusé le président de, je cite, « échouer dans la gestion de la crise environnementale, tout comme il a échoué dans la gestion de la crise sanitaire. »
Cette crise est parmi les plus graves de notre époque. Elle nécessite de l'action et non du déni. Si on donne à un pyromane du climat 4 années de plus à la Maison-Blanche, comment peut-on s'étonner que l'Amérique s'embrase davantage ?
Les propos du jour de Donald Trump sur la science ont déclenché de vives critiques, mais la Maison-Blanche s'est refusée à tout autre commentaire. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et évidemment, Christophe Paget, aux États-Unis, la presse se fait l'écho aujourd'hui de ce combat contre le feu qui devient maintenant un combat politique.
Oui, le New York Times a joint par téléphone l'ancien gouverneur de Californie, Jerry Brown, qui demande aux journalistes, c'est d'ailleurs le titre de l'article, « Dites-moi, où allons-nous tous aller ?» Et Jerry Brown de s'interroger, au Canada peut-être, quelle est notre alternative ? L'Iowa, là, il y a de plus en plus de tornades. En fait, nous sommes dans une crise globale. Elle a été prévue et elle est en train de se produire. Il va y avoir des problèmes partout aux États-Unis. Dans un éditorial, le Washington Post s'exclame « Nous devons voter pour le futur de la planète ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet éditorial n'est pas ambigu. Voter pour Trump, c'est voter pour l'ignorance et la ruine environnementale. Voter pour Biden, qui a promis de rejoindre immédiatement l'accord de Paris s'il est élu, c'est voter pour la planète Terre.
Merci Christophe Paget, on vous retrouve en seconde partie pour nous parler de la Colombie. C'est à présent une chronique à retrouver toutes les semaines sur Radio France Internationale et ce à quelques semaines du premier tour donc de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, good morning Wilmington, ce mardi, notre envoyé spécial permanent aux États-Unis nous emmène chez Joe Biden. Le candidat démocrate y mène l'essentiel de sa campagne depuis sa maison située dans les quartiers plutôt cossus de cette ville du Delaware. À Wilmington, tout le monde ou presque a déjà croisé l'ex-vice-président, mais sa candidature à la Maison-Blanche n'entraîne pas pour autant un immense enthousiasme. Reportage, Anne Corpé.
Nous sommes au Clement Steak Shop, spécialisé dans la vente de sandwichs à la viande. Sur le mur, on a des photos de Joe Biden avec la propriétaire, car le candidat à la présidence vient souvent ici.
Je m'appelle Eileen Beklarian. Je travaille ici depuis 10 ans. Je l'ai rencontré quand il était vice-président. Il était très humble, il est entré, a fait la queue comme tout le monde. Il s'est assis ici et a mangé son repas. Il a parlé aux clients, a fait des photos avec eux. Il était très aimable et humble. Il vient ici depuis longtemps.
Joe Biden, un homme accessible que tout le monde ou presque semble avoir croisé à Wilmington. Tyrone Bailey, 59 ans, est assis devant le porche de sa maison dans le quartier noir de la ville.
Je l'ai rencontré à mon premier boulot au supermarché Johnson. Joe Biden est venu dans le magasin, moi je remplissais les sacs, il m'a donné $50 parce que j'ai emballé ses marchandises et il m'a dit de continuer à faire du bon boulot. Il est proche des gens, il connaît tout le monde, c'est mon homme.
C'est dans la pizzeria de Gianni Esposito que Joe Biden a annoncé sa candidature à la Maison Blanche. Mais Gianni se garde bien de prendre parti dans la course à la présidence.
Mes vues politiques sont différentes des siennes, mais si les gens m'entendent parler, ils vont dire que je suis raciste ou fanatique. C'est ça l'Amérique d'aujourd'hui, tu ne peux plus exprimer ton opinion. De nos jours, quand les gens ont une opinion différente, ils deviennent ennemis. Mon business, c'est de vendre des pizzas. Je ne veux être l'ennemi de personne. Joe Biden est un homme bien. Mais est-ce que je vais voter pour lui? J'en sais rien.
Les marchés boursiers vont sombrer si Joe Biden est élu. En ce moment, les cours sont au plus haut.
Pas de dispute ici, ok? Merci.
Eric Anderson, ingénieur de 29 ans, ne bronche pas en écoutant la conversation. Mais une fois sorti de la pizzeria, il nous confie.
Je suis progressiste. Être de gauche aux États-Unis, c'est souffrir la plupart du temps. J'ai voté pour Bernie Sanders aux primaires ici, mais je considère que Donald Trump est une menace sévère pour la démocratie. Je ne suis pas emballé à l'idée de voter pour Joe Biden, je ne suis pas super enthousiaste, mais je sais au moins que c'est un type décent.
Nous sommes à la gare de Wilmington, rebaptisé Joe Biden Station, car c'est ici que pendant 36 ans, Joe Biden a pris le train tous les matins pour se rendre au Sénat à Washington. Il rentrait tous les soirs pour s'occuper de ses deux fils. C'est à cette époque que Lee Murphy, conducteur de train, aujourd'hui à la retraite, a rencontré le candidat démocrate. Lee Murphy se présente comme candidat républicain au Congrès.
J'ai connu Joe Biden dans le train. Parfois, si j'en avais besoin, il me proposait de me ramener chez moi en voiture à partir de la gare. Dans les années 80 et les années 90, les gens pouvaient ne pas être d'accord, mais tout de même, on s'entendait, on pouvait être amis. Mais ces temps-là sont révolus. Je pense que Joe est un bon père de famille, mais franchement, s'il est élu, il sera sous le contrôle des membres les plus radicaux de son parti, ce que je trouve très triste.
À Wilmington, les qualités humaines de Joe Biden sont unanimement reconnues, mais le fief de l'ex-vice-président démocrate n'est pas épargné par les divisions qui fracturent l'Amérique. Anne Corpet à Wilmington, RFI.
La suite à présent de la revue de presse des Amériques avec vous, Christophe Paget. La Colombie, tous les journaux du pays font leur une sur ces violences de mercredi et de jeudi à Bogota. Des violences qui ont fait 13 morts et plus de 400 blessés sur lesquels ces journaux ont enquêté.
Oui, tout est parti d'une vidéo qui a fait le tour des médias sociaux sur laquelle on voit un homme, Javier Ordenes, tasé par la police. Il reçoit des décharges électriques à 8 reprises dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Les Colombiens descendent ensuite dans la rue pour protester. S'en suivent de violents heurts avec la police dans la capitale et dans plusieurs autres grandes villes. El Tiempo s'est procuré une vidéo et 6 photos prises dans la clinique où avait été emmené Javier Ordenes. Le journal ne publie pas les photos à la demande de la famille car elles sont dures. Mais selon la famille, ce sont en fait des photos clés et El Tiempo les décrit. On y voit que la victime a subi un fort coup sur le côté droit de la tête. Son épaule droite est aussi marquée. Des bleus également dans le cou, autour de l'œil gauche, sur les poignets. Avec ces éléments, explique El Tiempo, sa famille va tenter de prouver que, après avoir reçu les décharges électriques et avoir été violemment battu, Ordenes est mort dans le commissariat de Villa Luz, contrairement à ce qu'affirme, selon le journal, un des policiers qui soutient que la victime était vivante lors de son arrivée à l'hôpital.
Et l'autre journal, El Spectador, de son côté, a enquêté sur les très nombreuses violences entre manifestants et policiers qui ont suivi la diffusion de la vidéo.
Le journal s'étonne que la police soit aujourd'hui en train de récupérer dans les hôpitaux toutes les informations concernant les nombreuses personnes blessées, 300 civils et 165 policiers, pendant les heures. Nom, numéro de carte d'identité, heure d'arrivée, type de blessure. Le problème, note El Spectador, c'est que 75 des civils blessés l'ont été par des armes à feu. Et si l'on se fie aux dénonciations de la maire de Bogota et aux vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, les principaux suspects, ce sont les policiers. Récupérer ces informations est légal, mais génère des soupçons, note le journal, qui parle d'une méfiance évidente des blessés sur la manière dont vont être utilisées ces informations. El Spectador s'interroge aussi sur la présence des commissariats dans les quartiers, notant que lors des heures, 49 de ces commissariats sur 130 ont été détruits. C'est dans l'un d'eux que Javier Ordenes avait été emmené après son arrestation. Le journal rappelle aussi que depuis des années, des accusations émergeaient sur des actes inconcevables commis à l'intérieur de ces stations de police. Coups, corruption, abus sexuels jusqu'au meurtre. Tout cela a été une des raisons de la colère des manifestants la semaine dernière.
Et puis nous restons en Colombie où les FARC demandent publiquement pardon aux victimes des enlèvements et à leurs familles. Une déclaration inédite notre semaine.
Oui, ça a été une erreur très grave. Nous leur avons volé le bien le plus précieux, leur liberté et leur dignité. Semana comme El Espectador reprennent en titre les mots de la lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux par les chefs des ex-FARC. El Espectador rappelle que 9000 cas de personnes enlevées entre 1993 et 2012 par les FARC sont considérés comme prioritaires. 350 ex-FARC ont déjà rendu des comptes à la justice. Alors, pourquoi ces excuses? Ces anciens dirigeants des FARC affirment, explique Semana, que le calme de la vie civile leur a permis de réfléchir profondément à leur participation au conflit armé. Mais El Espectador tient à préciser les circonstances de ces excuses. Ces hommes avaient été la cible de critiques la semaine dernière, après des révélations de presse. Il s'était avéré que devant la juridiction spéciale pour la paix, ils avaient affirmé que le recrutement de mineurs, un autre délit dont ils doivent répondre devant la justice colombienne, n'avait pas été une politique des FARC.
Revue de presse des Amériques, signée Christophe Paget, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Et nous sommes à présent avec Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Bonjour Adrien.
Le coronavirus à la une de votre journal. Chaque lundi en Guyane, le conseil scientifique territorial se réunit et les experts médicaux et scientifiques, Alex, ont voulu se montrer rassurants mais prudents concernant le Covid.
Eh oui, en effet, l'épidémie recule, mais le virus, lui, circule toujours et le conseil scientifique a proposé quelques mesures pour enrayer l'évolution du Covid-19 en Guyane. Les explications de Céline Fleuzin de Guyane, la première.
Installer des drive-tests sur le pôle universitaire et à proximité des grands établissements scolaires pour contrôler la circulation du virus au cours de cette période de rentrée des classes, c'est l'une des recommandations des membres du conseil scientifique. Antoine Burin.
C'est de préconiser la réouverture de Drive pour permettre justement de répondre à ce besoin de tests administratifs et permettre d'avoir une vision un peu plus claire de ce qui se passe.
Pour se rendre aux Antilles, vous le savez, il faut présenter un test PCR négatif réalisé au maximum 72 heures avant votre vol. Pour le docteur Antoine Burin, ces règles devraient être appliquées dans les deux sens.
Autant il était contraignant, par exemple, de partir aux Antilles ou dans l'Hexagone, ces mêmes règles de précaution n'étaient pas appliquées pour le fait de venir en Guyane. Et la question justement qui est de de mesure, les risques sont les mêmes.
Mirdad Kazandi, directeur de l'Institut Pasteur, est catégorique lorsqu'on lui demande s'il pense que l'état d'urgence sanitaire sera effectivement levé le 31 octobre prochain.
Absolument pas. Ah non, non. Je pense que là, on va rentrer dans une nouvelle phase avec une épidémie qui va redémarrer.
D'où l'importance de continuer à appliquer de manière assidue tous les gestes barrières, selon le directeur de l'Institut Pasteur.
Céline Fleuzin de Guadeloupe, la première. Et la Guadeloupe reste toujours au-dessus du seuil d'alerte nationale en matière de contamination au coronavirus. Le département occupe la première place en France en ce qui concerne l'augmentation des cas positifs de Covid-19. La saison cyclonique n'a jamais été aussi active dans le bassin atlantique. Sept phénomènes météorologiques sont en ce moment entre les côtes de l'Afrique et l'Amérique. C'est un fait assez rare et la saison est loin d'être terminée. Les explications de Bruno Benjamin, président de l'association Ouragan.com.
Nous avons chaque phénomène avec un nom évoluant dans le bassin atlantique et effectivement deux zones tropicales. C'est rarissime. Ce n'est que la troisième fois depuis la météorologie moderne, donc depuis 1959, que ça se produit. C'est tout simplement la coordination de tous les éléments pour que l'activité soit très intense. On n'a pas terminé, on est à peine à la moitié de la saison, ce qui veut dire qu'on a au moins le temps d'en avoir peut-être une dizaine encore. Et dans la dizaine, il n'est pas exclu qu'il y en ait un qui s'approche de la Guadeloupe et où on aurait besoin à la fois d'avoir son kit chez soi, qu'on a prévu, qu'on a préparé tranquillement chez soi, mais également d'avoir rédigé son plan cyclone, savoir ce qu'on fait, qui fait quoi, comment, qui, est-ce qu'on reste chez soi, comment on s'occupe de ses parents, de ses animaux, des plantes qui sont à l'extérieur. Ça, il faut qu'on prenne le temps de le rédiger. Il faut profiter du fait qu'on n'ait pas d'alerte pour pouvoir rédiger ce plan familial de mise en sûreté.
Bruno Benjamin de l'association ouragan.com, et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci Alex Léveillé et à demain sur RFI pour de nouvelles informations ultramarines.
Port-au-Prince 89.3 FM.
À l'écoute des RFI, nous sommes à présent avec le rédacteur en chef d'Alter Presse. Vous êtes à Port-au-Prince. Bonjour Godson Pierre.
Bonjour Adrien.
Dans l'actualité haïtienne, cette nouvelle journée de violentes protestations dans la capitale. D'un côté, des policiers réclament la libération d'un des leurs, incarcéré selon eux injustement. Et de l'autre, Godson, la colère des manifestants qui ne se dirigent pas uniquement contre la direction générale de la police.
Oui, le groupe dénommé Phantom 509, composé entre autres de policiers, revendique que le mouvement qui a paralysé les activités scolaires et commerciales. Plusieurs véhicules de l'État ont été incendiés par des mains inconnues qui ont également mis le feu dans un bureau de l'Office national d'identification. Revendication, libération du policier national Jean-Pascal Alexandre du bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants, incarcéré sous l'accusation d'assassinat, d'actes de vandalisme, de destruction de biens publics, d'atteinte à la sûreté de l'État, du parquet près le tribunal civil de Port-au-Prince. Mais il y a eu également dans les régions des manifestations d'élèves réclamant des enseignants dans les salles de classe et à la capitale des manifestations anti-gouvernementales.
Dans l'actualité, le barreau de Port-au-Prince qui dénonce une intrusion des autorités le week-end dernier, intrusion dans l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier Montferrier d'Orval. Alors, quelles sont ces autorités qui se seraient invitées dans l'enquête ?
Alors, le barreau pointe du doigt le Premier ministre Joseph Jout et le protecteur du citoyen Maître Renan Edouville qui sont intervenus publiquement ces derniers jours sur le dossier. Les deux ont qualifié de faute administrative l'infraction pour laquelle 5 policiers ont été incarcérés le 11 septembre dernier, puis libérés sur demande du Premier ministre. Ils avaient à leur charge de surveiller la résidence de Maître Dorval, assassiné le 28 août. La scène de crime a été vandalisée. Le barreau proteste énergiquement contre ce qu'il considère comme une obstruction de l'enquête.
Et puis enfin, c'est à lire dans Alter Presse des associations de médias qui condamnent des menaces, dont la radio-télévision Caraïbes qui se dit être l'objet. Alors, quelles sont ces menaces et tout d'abord, sait-on à quoi elles sont dues ?
Eh bien, la RTVC, la radio-télévision Caraïbes, indexe des mains manipulatrices ayant des projets inavouables et inavoués qui tentent de détruire l'image et la réputation de la station en l'assimilant aux partis politiques au pouvoir. Plusieurs organisations anonymes annoncent, selon RTVC, des attaques imminentes contre le bâtiment de la radio. L'Association nationale des médias haïtiens s'élève contre ces menaces et les tentatives d'intimidation dirigées contre la station. La NMH déplore les incidents répétés, les agressions éparses contre les médias et les journalistes, tout en déplorant de son côté les menaces de toutes sortes ainsi que les actes d'intimidation contre la presse. L'Association des médias indépendants d'Haïti invite la Radio Caraïbe ainsi que les médias et les journalistes en général à poursuivre leur travail de formation et d'information avec courage, sans désemparer et en respectant l'éthique et la déontologie.
Godson Pierre, à Port-au-Prince pour Radio France Internationale. Merci à vous et bonne journée.
Bonne journée à vous aussi.
C'est la fin de ce journal, réalisé par Sergio Tenorio. Merci à lui, rédaction en chef Sylvie Noël. À réécouter quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr.
RFI, la sélection du mois.
Protoji. Charlie Couture.
Passer les frontières en marchant la nuit. Parti de là-bas, il était venu ici. Il avait pas eu de chance, c'était ça ou rien. Y'a les gars qui ont pas de chance.
RFI. Envie d'une boîte.